Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, les températures baissent en Europe et la question de l'approvisionnement en gaz se fait de plus en plus pressante. Charbon et énergie renouvelable ne suffiront pas, place au GNL, le gaz naturel liquéfié. En Allemagne, qui n'a plus de gaz russe via le fameux Nord Stream, 5 projets de terminaux de GNL ont été lancés et celui de Wilhelmshaven sur la mer du Nord devrait être opérationnel avant Noël, presque une prouesse, c'est le reportage sur place de Delphine Narbollier.
Du port de Wilhelmshaven, la traversée dure une petite heure en bateau pour atteindre la Jade. C'est ici, dans cette baie de la mer du Nord, que se trouve l'embarcadère du futur premier terminal flottant de gaz naturel liquéfié d'Allemagne.
Nous sommes à Wilhelmshaven, dans la Jade, un chenal de navigation.
Olaf Lies est le ministre de l'économie de cette région de Basse-Saxe. Il nous présente les lieux.
Nous sommes devant un embarcadère, un pont qui a été construit il y a déjà 40 ans. Il vient d'être agrandi, il est doublé d'un autre embarcadère. C'est ici que viendra accoster le fameux terminal flottant de regazéification. De là part aussi un pipeline qui rejoint la terre ferme. À terre, un autre tronçon de 30 km de pipeline est aussi en construction pour alimenter le réseau de gaz.
194 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour construire ce fameux embarcadère. Une durée record pour l'Allemagne, plutôt habituée à la lourdeur de son administration. Si tout va bien, à la mi-décembre, Lögl Esperanza viendra y accoster. Ce bateau viendra chargé de gaz liquéfié, mais surtout, il aura pour mission de transformer ce précieux GNL en gaz. Car ce terminal est flottant et il est le premier du pays. Le processus pourrait donc commencer avant Noël. Tout un symbole pour un pays très dépendant du gaz russe et qui, depuis la guerre en Ukraine, cherche des alternatives. Olaf Lies.
Avec ce terminal, nous allons pouvoir remplacer de 12 à 15% du gaz que nous importons de Russie. C'est entre 6 et 7% de l'ensemble des besoins en gaz de l'Allemagne. C'est passionnant car justement, nous ne voulons plus de gaz russe à l'avenir. Nous n'en avons d'ailleurs plus. Nous voulons être indépendants. Avec ce terminal, nous allons pouvoir continuer à chauffer dans les maisons et à stabiliser notre industrie.
Au total, 6 terminaux de gaz naturel liquéfié sont en projet. La plupart devraient entrer en service d'ici l'hiver prochain et couvrir un tiers des besoins en gaz du pays. Christian Meyer est écologiste et ministre de l'Environnement dans cette région de Basse-Saxe. Il s'en réjouit.
Ce projet est une réponse à la guerre de Poutine en Ukraine. On n'a jamais été aussi rapide pour mener un tel projet. Mais il est aussi important que cette rapidité concerne d'autres projets en faveur du développement des énergies renouvelables, de l'éolien et du solaire, pour réduire nos importations d'énergie fossile, pour atteindre nos objectifs climatiques. Nous ne voulons pas importer plus de gaz, mais moins.
Du côté des associations de défense de l'environnement, on ne croit pas vraiment à ces engagements. La multiplication des projets de terminaux de gaz naturel liquéfié est certes importante pour réduire la dépendance envers la Russie, mais quid des conséquences sur les émissions de CO2? Suzanne Gerstner préside l'association BUND à Hanovre. Elle se dit inquiète d'un retour des énergies fossiles.
La loi prévoit 12 terminaux de gaz naturel liquéfié. Ça nous fait réfléchir car le chancelier avait dit il y a quelques mois que 2 terminaux suffiraient. Le ministre de l'économie avait évoqué 4 au maximum. Maintenant, nous en sommes à 6, voire plus. Nous sommes en plein flou. Les politiques n'ont pas de plan. C'est tout simplement impossible alors que nous nous trouvons en pleine crise climatique et que nous devons accélérer les solutions pour sortir de toutes les énergies fossiles.
Dans le cas concret de Wilhelmshaven, la présence d'un terminal flottant de GNL soulève aussi des interrogations quant au risque de pollution.
Ici, nous sommes à l'entrée du parc naturel de Watten, classé patrimoine mondial, une zone protégée de la plus haute importance. Or, les travaux actuellement ont lieu sans évaluation sur l'impact environnemental. C'est notre plus grande critique. Le lieu est connu pour ses populations de marsouins et c'est ignoré. Nous critiquons aussi l'usage de biocides, l'usage de chlore qui sera rejeté dans la Jade. Cela aura des effets sur les micro-organismes.
Du côté des autorités, on assure que les standards environnementaux européens sont et resteront respectés, et cela même si la recherche d'indépendance énergétique du pays envers la Russie doit être menée au pas de course.
Et les pays baltes n'ont pas attendu la guerre en Ukraine pour penser à réduire leur dépendance face à la Russie en faisant appel au GNL importé des États-Unis ou du Qatar. La Lettonie et l'Estonie ont lancé des projets, mais la Lituanie a son terminal flottant depuis 2014, Marielle Vituroux.
Jusqu'en 2014, le fournisseur de gaz russe Gazprom usait de tous les moyens pour faire pression sur la Lituanie. Le pays ex-république soviétique signait des contrats longue durée avec des prix bien plus élevés que dans le reste de l'Europe. C'est après une rencontre en 2010 à Helsinki entre Vladimir Poutine et la présidente lituanienne que cette dernière a dit stop au chantage russe. Le président russe était prêt à baisser le prix du gaz, mais seulement en échange d'un droit de regard sur la construction d'une centrale nucléaire que la Lituanie envisageait. Il a fallu seulement 4 ans à la Lituanie pour acheter à la Norvège un terminal de gaz liquéfié appelé Indépendance. Amarré dans le port de Klaipeda sur la côte baltique, le terminal pourra prochainement traiter 5 milliards de mètres cubes de gaz venant des États-Unis ou du Qatar. Même si la capacité du terminal lituanien correspond à la quasi-totalité de la consommation de la région, les deux autres pays baltes développent aussi de nouveaux projets gaziers. Depuis le printemps, la Lettonie dispose déjà d'une réserve de gaz naturel, mais elle a lancé le processus pour la construction d'un terminal flottant. Quant à l'Estonie, après avoir voulu construire un terminal avec la Finlande, elle vient juste de jeter l'éponge au vu des dissensions entre les deux pays. Ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur de nombreuses questions comme le lieu d'amarrage du navire et l'accès prioritaire au gaz. Les 30 millions d'euros qui auraient dû y être consacrés vont servir à acheter du gaz naturel pour enflouer les réserves du pays en attendant que l'Union européenne élabore une stratégie pour le gaz liquéfié. Une stratégie vitale car ici dans la région, indépendance énergétique signifie tout simplement indépendance. L'énergie a longtemps été une arme utilisée par la Russie pour la faire plier.
Et c'est la question qui fâche. L'Europe a-t-elle si drastiquement coupé les vannes du gaz russe? Via les gazoducs, c'est certain, les importations ont baissé de 80%, mais le commerce du fameux GNL russe a fait un bond sur les 6 premiers mois de 2022, notamment en passant par des intermédiaires comme la Chine. Officiels et universitaires commencent à l'admettre. À Stockholm, Carlotta Morteo.
C'est un commerce qui est largement passé sous les radars. Difficile d'avoir des chiffres exacts, Tim McPhee, porte-parole de la Commission européenne sur les questions d'énergie, a indiqué en octobre dernier que les importations de gaz naturel liquéfié en provenance de la Russie avaient doublé dans les 9 premiers mois de l'année 2022. Selon des chercheurs spécialisés sur ces questions, tels que Anne-Sophie Corbeau de l'Université de Columbia aux États-Unis, la hausse serait plutôt de 15% par rapport à l'an dernier. Quoi qu'il en soit, c'est une manne de revenus non négligeable pour la Russie, d'autant que le gaz naturel liquéfié est plus cher que le gaz livré par gazoduc. Rien qu'en septembre, les pays européens ont payé près de 1 milliard de dollars à la Russie, quatrième producteur mondial. Seuls la Lituanie et le Royaume-Uni ont mis un terme à leurs achats de GNL russes. Sans compter les pays asiatiques, ce sont donc la France et l'Espagne qui sont les plus gros acheteurs cette année, suivis de près par la Belgique et les Pays-Bas. Si l'achat de gaz naturel russe par l'Europe est un problème moral, puisqu'il aide Moscou à financer sa guerre en Ukraine, il a permis à l'Union européenne de renflouer ses stocks pour passer cet hiver. Mais pas le prochain, car c'est grâce au ralentissement de la Chine que les Européens ont pu bénéficier d'un surplus de gaz naturel liquéfié mis sur le marché par Pékin cette année. Or, la Chine vient d'annoncer qu'elle n'en vendrait plus aux acheteurs étrangers en prévision de sa reprise économique. Ainsi, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, que ce soit par la porte ou par la fenêtre, même en imaginant ce qui est peu probable que la Russie continue de vendre à l'Europe la quantité de gaz naturel liquéfié qu'elle lui fournit actuellement, l'Europe manquera de 30 milliards de mètres cubes de gaz pour passer l'hiver 2023-2024.
Et à deux jours de la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, un nouveau mot a fait son apparition dans le langage grec. pas encore dans le dictionnaire, car il s'agit d'un néologisme. Gynécoctonia signifie féminicide et il s'impose aussi dans le discours politique. En octobre dernier, le Premier ministre l'a pour la première fois validé dans un discours après toute une série de meurtres visant des femmes. Gynécoctonia, c'est la chronique en un mot de notre correspondant à Athènes, Joël Bronner.
Το όνομά μου είναι Ελένη.
Το όνομά μου είναι Καρολάιν.
Το όνομά μου είναι Γαριφαλιά.
Το όνομά μου είναι Άννα.
Ελένη, Καρολάιν, Γαριφαλιά, Σταυρούλα, Νεκταρία, les prénoms de ces femmes décédées, égrenés ici par des élèves du lycée Héraclion de Crète, résonnent aux oreilles du public grec. Elles sont les victimes dont les noms sont répétés au fil des mois par de nombreux médias nationaux, comme s'il s'agissait de feuilletons. Le plus souvent, ces jeunes femmes ont été tuées par leurs compagnons. Pour interroger ce phénomène de société qu'est le féminicide, la gynécoctonia en grec, direction un autre établissement scolaire dans la périphérie d'Athènes. Sylva Iota enseigne l'anglais dans le deuxième collège de Koropi.
C'est à la fois un mot nouveau et un nouveau concept dans la société grecque. On entend à présent ce terme à la télévision. Depuis 2 ans, il y a eu en Grèce de nombreux crimes commis contre les femmes. L'usage du mot féminicide permet, je pense, de rendre compte plus intensément de cette réalité et de créer un choc émotionnel dans la société.
Depuis 2020, la violence domestique rendue visible par les confinements liés au Covid, conjuguée à une vague tardive du mouvement MeToo, ont participé à mettre en avant le phénomène du féminicide en Grèce. En cause pour certains, les mœurs particulièrement conservatrices du pays.
Pour moi, ce phénomène est lié à la société grecque et à la façon dont nous élevons nos enfants depuis plusieurs générations. Les hommes sont élevés dans une culture familiale qui donne l'impression à une partie d'entre eux qu'ils peuvent posséder les femmes.
Par rapport au terme générique d'homicide, le mot gynécoctonia, féminicide, permet de pointer du doigt la spécificité du meurtre de femme. C'est en Amérique du Sud, au Costa Rica précisément, que le concept entre pour la première fois dans le code pénal à la fin des années 2000. Pour Zoé Apostolaki, qui enseigne la religion, l'emploi de ce mot plus précis permet notamment de mieux percevoir la fréquence du phénomène en lui-même.
Le mot gynécoctonia apparaît aujourd'hui très souvent dans les informations, les journaux ou les articles sur Internet. Par le passé, on entendait seulement parler d'homicide ou parfois de syzygoctonia qui signifie meurtre d'un conjoint. Le fait de voir utiliser si souvent et prioritairement cette expression de gynécoctonia met en lumière l'existence de nombreux meurtres de femmes. C'est donc dans notre intérêt d'employer ce mot-ci, parce que c'est la réalité, même si elle est cauchemardesque.
Gynécoctonia s'est particulièrement répandue dans la langue grecque depuis 2 ans, mais le terme a émergé publiquement dès 2018, lorsqu'Athènes signe la Convention d'Istanbul sur la violence faite aux femmes. Un an plus tard, le code pénal grec indique que tout rapport sexuel non consenti est un viol. Au collège de Koropi, Poli Rentsepopoulou enseigne le français. Pour elle, c'est cette évolution législative qui a contribué à libérer la parole depuis peu.
C'est un mot qui existe parce que les lois ont permis de parler de ça. Alors, il faut que les lois s'adaptent vraiment à la gynécoctonia, c'est-à-dire la famicide pour moi. Excusez-moi pour le néologisme, mais je ne comprends pas féminicide.
Au-delà de cette question linguistique française, une étape politique reste donc en effet à franchir en Grèce, celle d'inscrire le féminicide, la gynécoctonia, dans le code pénal. Le terme gynécoctonie apparaîtrait alors dans les dictionnaires grecs entre gynocratie et gynécologie.
On la présente souvent comme la nouvelle Croatie. L'Albanie se fait petit à petit sa place sur la carte du tourisme européen. Il y a 10 ans, seule une poignée de curieux avait entendu parler des Alpes albanaises et de ces paysages grandioses et préservés. Un secret qui n'est plus si bien gardé. Les touristes affluent, 5,7 millions entre janvier et août 2022. Mais le pays n'a pas forcément pris la mesure des adaptations nécessaires pour protéger son patrimoine patrimoine et les ressources naturelles. Reportage à Fef, dans le nord du pays, signé Louis Seyé.
Il y a 7 km en...
Avec leurs sommets menaçants et leurs forêts majestueuses, celles qu'on appelle les montagnes maudites semblent encercler les trois voyageurs. Partis de Belgique, Maxime et ses amis viennent tout juste de se retrouver au cœur des Alpes albanaises. Cet ingénieur de 29 ans est venu à vélo depuis le plat pays. Aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir grimpé les impitoyables cols de la région avec son chien dans les bagages.
C'est juste incroyable et surtout à vélo, j'ai bien le temps de voir le paysage et j'en ai pris plein la vue. Là, je suis devant, face à ces montagnes et je prends une claque, c'est juste fou.
Maxime n'est pas le seul visiteur à s'émerveiller des paysages grandioses des Alpes albanaises. Cette année, l'automne est particulièrement doux et l'anglais résonne encore dans les bouitinas, les gîtes de la vallée. À 47 ans, Alvaro Dreni supervise les travaux d'agrandissement de son auberge. Depuis 4 ans, cet enfant du pays y accueille les randonneurs du monde entier.
J'ai travaillé pendant 9 ans aux États-Unis. Là-bas, le travail, c'était pas mal. Mais bon, mon esprit était ici. Et je pensais revenir et investir dans le tourisme. Au début, j'avais juste 6 chambres. Mais en travaillant et en investissant chaque année, aujourd'hui, je suis à une capacité de 20 chambres. Et la demande est en hausse constante.
Il y a encore quelques années, seuls les randonneurs étrangers s'aventuraient dans ces montagnes difficiles d'accès. Aujourd'hui, la route est entièrement goudronnée et depuis la pandémie, les touristes albanais viennent eux aussi profiter des cascades et des canyons de la vallée. Oueda habite à Tirana, elle découvre Fef pour la première fois.
L'Albanie a plein de beaux endroits que l'on peut explorer. Après le confinement, comme les frontières étaient fermées, notre vision du pays a changé et la situation nous a poussé à visiter ici, en Albanie, des endroits où on n'avait pas l'habitude d'aller.
Avec près de 6 millions de visiteurs, 2022 est une nouvelle année record pour le tourisme en Albanie. Ce boom économique transforme le pays et notamment la région de Fef, qui voit passer toujours plus de quarts de touristes pendant l'été. Pourtant, il y a 10 ans, le nord de l'Albanie était encore l'une des régions les plus isolées d'Europe. Pour Alvaro Dreni, cette nouvelle manne touristique est une bénédiction.
Avant, la vie était très difficile et les gens vivaient de l'élevage et de l'agriculture. Aujourd'hui, on se sent vraiment privilégié parce que les touristes viennent massivement du monde entier. Et c'est grâce au tourisme que l'on a des revenus.
Dans la vallée de Fef, les gîtes et les restaurants poussent comme des champignons. Les tarifs des auberges s'affichent maintenant en euros et le prix des chambres atteint les 20 euros par personne. Une somme conséquente en Albanie où le salaire moyen reste de 550 euros par mois. À 31 ans, Pal a passé 2 nuits à Fef avec sa femme.
Jusqu'à récemment, les touristes étaient essentiellement étrangers et cela a poussé les hôteliers à augmenter leurs tarifs. Mais pour nous, les Albanais, c'est un peu difficile. Il faut mettre beaucoup d'argent de côté pour venir ici peut-être une fois dans l'année. Et pour certains Albanais, c'est même impossible d'économiser autant et de venir ici.
Il y a 400 ans, pendant la période ottomane, c'est au cœur de ces montagnes maudites que se sont réfugiés des familles catholiques qui refusaient de se convertir à l'islam. Au fil des siècles, les habitants ont conservé des traditions et une architecture unique en Albanie. Ce patrimoine est aujourd'hui menacé par le développement effréné du tourisme. Les maisons en vieille pierre typiques de la région laissent de plus en plus la place à des hôtels sans cachet. Liridona Ura travaille auprès des communautés rurales pour l'ONG GO2 Albania.
C'est très important que les habitants répondent à ce flux de touristes en leur offrant ce qu'ils ont d'unique. C'est comme ça que les Alpes albanaises et le tourisme dans les Alpes pourront être préservés en évitant de détruire ce territoire et de perdre l'authenticité de la région.
Dans un pays où l'état de droit reste particulièrement faible, pas sûr que les autorités arriveront à protéger ce patrimoine albanais. Alors qu'elle prévoyait d'augmenter la capacité d'accueil de Fef à 1500 lits en 2030, la barre des 2000 lits a déjà été atteinte cette année.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous en podcast sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.